écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. L'intelligence artificielle pourrait-elle aider à combattre la pénurie de médecins? Pourrait-elle aider à sauver des vies? On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, Le Soir a pu consulter le premier état des lieux des situations de harcèlement et d'agression sexuelle parmi les étudiants universitaires et les chiffres font froid dans le dos. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Pour la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles, une étude scientifique dresse un état des lieux des faits de sexisme, de harcèlement et de viol sur les campus universitaires. Les résultats sont édifiants. En milieu festif, près de 20% des femmes déclarent avoir été victimes de viols pendant leurs études. Une culture de la guindaille qui favoriserait donc les comportements abusifs en tout genre. Charlotte Hutin est journaliste au Pôle Société. Elle a interrogé l'un des auteurs de l'étude. Elle revient avec Sarah Saadi-Garcia sur les résultats et ce qu'ils disent.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Sarah.
Alors c'est la première fois qu'il y a une étude sur le harcèlement, le sexisme et les faits de viol dans le milieu universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui a décidé de mener cette étude? Pourquoi survient-elle aujourd'hui? Et comment a-t-elle été réalisée?
Alors en effet, c'est une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et alors c'est une étude qui part de l'initiative de deux chercheurs, Benoît Galland et Noémie Buisson, qui sont des chercheurs à la faculté de psychologie de l'Université catholique de Louvain. Et donc en collaboration avec 5 mémorantes, ils ont décidé en fait de mener une étude sur les situations de harcèlement, toute forme de harcèlement confondue, et d'agression sexuelle sur le campus de Louvain-la-Neuve. Et alors c'est une collaboration avec l'Observatoire de la vie étudiante, donc avec le vice-rectorat. Et en fait, ça fait suite aux vagues de dénonciations d'agressions sexuelles qu'il y a eu sur les différents campus, à Louvain-la-Neuve, mais aussi à l'Université libre de Bruxelles, au début des années 2020. Donc, alors, suite à ce phénomène, une vague MeToo qui a touché les établissements, les chercheurs se sont dit, on va essayer d'objectiver le phénomène et de mieux le comprendre pour mieux intervenir. Et alors, la forme de l'enquête, c'est une enquête qui était disponible en ligne et qui a été menée entre mars et avril 2022. Et alors, elle a été diffusée via différents canaux de communication. Les étudiants recevaient des mails, il y avait des campagnes de communication. Et alors, au total, il y a environ 3000 répondants, étudiants et étudiantes de l'université qui ont répondu, ce qui est assez conséquent comme étude.
Et justement, par rapport à ces réponses, les résultats obtenus sont assez édifiants. Pouvez-vous revenir sur quelques chiffres issus de cette étude?
Alors, en effet, les résultats sont assez interpellants, notamment pour ce qui est du harcèlement sexuel, qui est la forme la plus fréquente de harcèlement à l'université. La majorité des étudiants, 70% disent avoir déjà été confrontés à un acte sexiste. Mais si on tient compte du fait que le harcèlement, c'est un acte répété qui prend place dans la durée, les chercheurs estiment que ça concernerait 14% des étudiants. Donc 14% des étudiants seraient victimes de harcèlement sexuel. Alors la deuxième forme de harcèlement qui est la plus fréquente, c'est ce que les chercheurs appellent l'ostracisme, donc le rejet social qui prend la forme d'évitement, de mise à l'écart. Et ça concernerait 13% des étudiants. Alors contrairement à l'enseignement obligatoire, donc secondaire et primaire, on voit que par contre le harcèlement direct, donc des remarques, des insultes, des violences physiques et le cyberharcèlement sont en revanche moins fréquents à l'université.
Comment ça se manifeste sur les campus et quelle forme ce harcèlement peut-il aussi prendre?
Alors la forme, c'est un peu équivalent à ce qui se passe dans la société, donc ça prend la forme de principalement de remarques sexistes, de regards déplaisants, de blagues entre guillemets à caractère sexuel, et ça peut aller dans certains cas jusqu'à des tentatives de rapprochement malgré un refus, voire des attouchements sexuels. Et donc ça, c'est dans une minorité de cas, mais ça peut aller jusqu'à ces comportements.
Autre enseignement de cette étude, la communauté étudiante n'est pas exposée de façon similaire à ce harcèlement. Qui est le plus touché par ces violences?
Tout à fait, les étudiants ne sont pas tous confrontés de la même manière à ces violences. Sans surprise, et c'est ce qui est montré dans d'autres études, évidemment, c'est les femmes qui sont significativement plus à risque d'être victimes de harcèlement sexuel. C'est aussi le cas des personnes de la communauté LGBTQIA+, qui sont plus à risque de harcèlement sexuel. Pour ce qui est du rejet social, là c'est un peu un profil différent. On voit que ce sont surtout les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'obésité et les personnes qui ne sont pas de nationalité belge qui sont le plus plus à risque d'être victime de rejet et d'exclusion. Donc il y a vraiment deux dynamiques différentes qui ont l'air de se produire à l'université. Et alors une troisième catégorie de victimes, c'est ce que les chercheurs appellent les victimes multiples, donc en fait qui sont confrontées à toute forme de harcèlement, y compris le harcèlement direct et le cyberharcèlement. Et ça concerne 1% des étudiants et ce serait majoritairement les personnes non binaires, donc qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme, qui sont vraiment les plus à risque de subir toute forme de harcèlement en fait.
Les chiffres sur le viol sont également extrêmement interpellants. Comment peut-on expliquer des chiffres aussi importants ?
Oui, alors là, les chiffres sur le viol, ils sont vraiment édifiants, c'est le mot. Pour revenir un peu sur les chiffres, hein, on voit que pareil, il y a aussi des personnes qui sont bien plus victimes. Et la question en fait posée par les chercheurs, elle laisse peu de place à l'interprétation, puisqu'en fait, c'est la définition du viol telle que définie légalement qui est posée dans l'étude. Et alors, on voit que 2% des répondants hommes disent avoir été victimes de viol. C'est le cas de 7% des femmes et 14% des personnes non binaires. Outre ces caractéristiques, on voit que pareil, les personnes LGBTQIA+, sont deux fois plus à risque d'être victimes de viol. Un autre résultat qui est vraiment interpellant, c'est au sein de la communauté et des membres de cercles régionales et côtes à projet. Et là, donc, parmi les femmes qui sont membres de telles organisations étudiantes, donc qui sont très fortement constituées autour de la guirlande et de l'aspect festif, là, on voit qu'une étudiante sur cinq, une étudiante femme sur cinq, a été victime de viol.
Et justement, dans quel cadre ces viols ont-ils lieu ? Est-ce qu'il y a des environnements qui favorisent cette culture du viol ?
Oui, alors là, l'étude, elle s'est vraiment intéressée à la question des viols qui ont lieu sur le campus universitaire, même si on sait que c'est au sein de cette tranche d'âge, les agressions sexuelles peuvent avoir lieu dans d'autres contextes. D'ailleurs, les chiffres sont, selon les chercheurs, relativement similaires pour cette tranche d'âge à d'autres contextes. Donc l'université est tout simplement, malheureusement, le reflet de la société. Par contre, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'il y a des contextes qui favoriseraient cette culture du viol, notamment les contextes festifs en présence de l'alcool, qui seraient en fait pour les agresseurs une justification à leurs agressions. C'est d'ailleurs ce que certains étudiants relatent quand on les a contactés, de dire « lorsque des étudiants devaient justifier leurs actes, cela se faisait par le fait qu'ils étaient bourrés, que la victime était elle aussi bourrée, qu'elle avait bien voulu ». Donc il y a vraiment une justification et les agresseurs trouvent dans ces contextes festifs presque un terrain d'activité favorable à leurs agressions.
Maintenant qu'on a fait cet état des lieux, comment de tels actes et comportements abusifs peuvent-ils être évités, dénoncés et punis à l'avenir ? Comment les étudiants peuvent-ils alerter les autorités compétentes sur un campus pour que cet environnement devienne plus sûr pour toutes et tous ?
Alors l'étude, elle ne visait pas à évaluer comment finalement éviter de tels actes abusifs. Par contre, ce qu'elle montre, c'est que les étudiants en fait ont une faible connaissance des dispositifs qui existent, des dispositifs mis en place par l'université, alors même qu'il y avait eu juste avant l'étude de grandes campagnes de sensibilisation, de grandes campagnes d'information sur les nouveaux dispositifs existants. Et donc là, ça montre que, avant toute chose, il faut mieux communiquer, mais aussi peut-être passer par une autre forme de communication, une communication plus directe. Et on sait que les étudiants reçoivent énormément de mails en début d'année, et en fait, tant qu'ils n'ont pas été victimes ou témoins, ils ne se renseignent pas sur les dispositifs qui existent. Une manière de les informer, ce serait d'aller directement dans les auditoires, d'aller directement auprès d'eux et de communiquer sur les différents dispositifs. Un autre renseignement de l'étude, c'est qu'on voit que les étudiants ont une confiance mitigée à l'égard de l'action de l'université. Et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On sait que quand un étudiant a une mauvaise expérience de l'action de l'université, ça peut se répercuter sur d'autres étudiants. Il y a une forme de propagation de l'information. Et donc au sein de l'université, il y a depuis quelques années un dispositif, depuis 2019, un dispositif qui s'appelle la cellule Together et en fait qui vise à accueillir et réceptionner les plaintes des étudiants pour ce qui est des situations de harcèlement et de violence. Et donc les étudiants peuvent aller déposer ce qu'ils ont vécu. C'est pas un dispositif qui vise à sanctionner les agresseurs. Pour ça, les étudiants doivent déposer une plainte auprès du vice-rectorat. Et donc ce sont deux systèmes qui sont indépendants. En fait, les étudiants parfois confondent l'action de ces deux dispositifs. Et donc en allant déposer ce qu'ils ont vécu auprès du dispositif Together, ils s'attendent à des sanctions. Or ça, c'est vraiment le vice-rectorat aux affaires étudiantes qui doit prendre ces sanctions. Et donc ce dispositif, ça vise, avec l'aide d'une personne qui a un profil plutôt juridique et une personne avec un profil plutôt social, à accompagner l'étudiant, à réfléchir avec lui à ce qu'il a envie d'entamer comme poursuite ou non. Et donc ça, c'est un dispositif qui existe. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation auprès des cercles, mais c'est vrai que les étudiants ont une faible connaissance de ces dispositifs et une confiance assez mitigée en l'action de l'université. Et donc il y a une confiance qui doit être recréée en l'action de l'université. Et alors, ce que les chercheurs conseillent, c'est que l'université communique davantage sur les actions qu'elle entreprend, mais aussi sur les résultats, sur les chiffres, combien de personnes déposent plainte, quelles sont les actions concrètes lorsqu'il y a une plainte. En fait, les étudiants ont l'impression que l'université réfléchit beaucoup, mais met assez peu en place d'actions concrètes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti quand on allait à leur rencontre sur le campus. On a rencontré des étudiants sur le campus, notamment des étudiants qui sont baptisés et qui ont l'habitude de fréquenter en fait les cercles étudiants. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a une disparité assez importante entre les cercles et les régionales. Même s'il y a une personne formée à ces questions de violence au sein de chaque cercle, la mise en pratique semble, selon les étudiants, différer d'un cercle et d'une régionale à l'autre. C'est également quelque chose qui a été rapporté auprès du vice-recteur et sur lequel il nous a dit vouloir faire attention dans les années à venir. Mais donc, il y a des étudiants qui nous disent clairement éviter certains cercles, certaines régionales, parce qu'ils savent que dans ces cercles-là, il y a plus de risques d'agression. Et étant donné qu'en fait, à la base, c'est plutôt aux étudiants des cercles et des régionales de gérer eux-mêmes les situations de harcèlement, quand ils sont face à une personne qu'ils connaissent qui est visée comme agresseur, ils ont du mal pour certains à savoir comment réagir. Au sein d'un même cercle, certains vont peut-être vouloir exclure cette personne, alors que d'autres, en raison de liens d'amitié ou d'une crainte, vont plutôt vouloir faire profil bas et laisser la situation telle qu'elle. Et donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que dans ces cercles qui sont en fait des ASBL gérés par des étudiants, l'université a un pouvoir d'action qui, selon elle, reste limité tant que les étudiants n'ont pas été formellement déposés plainte auprès du vice-rectorat.
Merci Charlotte.
Merci Sarah.
L'intelligence artificielle sauvera-t-elle bientôt nos vies ? Pour de nombreux travailleurs de la santé, elle deviendra en tout cas un outil indispensable pour l'accompagnement des patients. Lila Maître s'est rendue dans le service otorhino-laryngologie de l'hôpital Épicura près de Mons, service qui a lancé fin janvier un questionnaire intelligent pour ses patients.
Elle, en fait, elle a le nez qui est bouché des deux côtés et elle a des problèmes d'odorat depuis 12 jours intermittents.
Elle ? C'est l'une des premières patientes du service ORL d'Épicura à remplir un questionnaire de diagnostic qui utilise l'intelligence artificielle. Avant sa visite chez le docteur Jérôme Lechien, elle a soigneusement répondu à des questions sur ses symptômes. Puis, le logiciel propose des possibles diagnostics. Pour cette patiente, il n'est pas très sûr.
C'est une sinusite aiguë, mais il est sûr à 12%. Hein. Pas terrible. Hein. Et en fait, cette patiente, elle avait une sinusite chronique. Pourquoi est-ce que ça m'a mis aiguë et pas chronique ? Parce qu'elle m'a mis que ça durait depuis 12 jours. En fait, ça dure depuis des mois. Je le sais parce que je lui ai posé la question. Donc là, c'est un peu la patiente qui a mal rempli. Hein. Bah, si elle avait mis 12 mois, il m'aurait dit sinusite chronique. Hein. Donc il a quand même capté que c'était une sinusite. Hein. Donc c'est pas mal.
En ce premier jour de test, une trentaine de patients ont répondu aux questions du logiciel. Où se situent leurs symptômes ? Depuis quand en souffrent-ils ? Prennent-ils des médicaments ? Sont-ils fumeurs ? Aujourd'hui, le questionnaire n'est pas parfait. Mais avec le temps, Jérôme Lechien espère que les diagnostics proposés par l'IA seront de plus en plus précis.
On n'est qu'au début, hein, c'est une maquette. Hein. À mon avis, pendant quelques semaines, il va être parfois à côté de la plaque. Hein. Je vais devoir le rectifier, mais après, ça ira mieux. Je peux mettre le diagnostic final ici et l'envoyer dans le système. Et ça va permettre au programme de s'améliorer progressivement via ce qu'on appelle du machine learning. Et le machine learning, c'est quelque chose qui a été développé en respectant un peu le système de neurones de l'intelligence humaine. Et donc, en renforçant certains diagnostics liés à certains symptômes, ça va renforcer des connexions entre des unités d'intelligence artificielle et ça va un peu fonctionner comme la mémoire. Quand moi, je vois 10 patients avec les mêmes symptômes ou c'est 10 fois le même diagnostic, ben ma mémoire, elle comprend très vite au 11e patient ce que c'est. L'intelligence artificielle, c'est la même chose.
Cette initiative résulte du partenariat entre l'hôpital et la société flamande Bingley, qui se spécialise dans la conception de ces questionnaires médicaux intelligents. Pour le cofondateur de l'entreprise, Tom Van de Put, l'idée est née d'une volonté de pallier à la pénurie de travailleurs de la santé en rendant plus rapide le temps de consultation.
On a vu qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu en récoltant l'histoire du patient, ce qu'on appelle l'anamnèse. On s'est dit comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Et la solution, c'est on va poser les questions qu'un médecin ou un professionnel de santé va poser ou devrait poser. On va poser ces questions en amont, donc avant que le patient visite le médecin ou l'hôpital. Et en faisant ça, on va d'abord gagner beaucoup de temps parce que récolter cette histoire du patient, ça prend en moyenne 5 minutes. Donc on peut réduire ça à 30 secondes, mais je pense plus important, c'est gain en qualité d'information. Parce que si on donne l'opportunité aux patients de réfléchir, de mieux réfléchir, de mieux se préparer en amont de la consultation, l'histoire qu'on récolte est plus précise, plus fiable.
Pour Jérôme Le Chien, l'utilisation de cette intelligence artificielle pourrait même permettre de sauver des vies.
Il y a une pénurie de médecins et on a des délais extrêmement longs. Donc moi, à ma consultation, j'ai des délais de 6 à 9 mois environ. Et j'ai déjà eu quelques patients qui sont venus à ma consultation après avoir pris rendez-vous 6 mois auparavant, qui avaient un cancer. Et le temps d'attente, le cancer a flambé. Ces patients sont décédés. Si je les avais vus au moment de la prise de rendez-vous, j'aurais pu les sauver. Cette intelligence artificielle va identifier les maladies graves et va proposer des rendez-vous rapides pour les maladies graves et des rendez-vous standards pour les maladies qui ne sont moins graves ou qui sont bénignes.
Pour pouvoir mettre en place ce questionnaire au sein du service ORL, il a dû être approuvé par un comité d'éthique. Car si l'intelligence artificielle peut être un outil utile pour les travailleurs de la santé, mal utilisée ou mal développée, elle peut comporter quelques risques. Le professeur Giovanni Briganti, titulaire de la chaire Intelligence artificielle et médecine digitale à l'Université de Mons, nous en dit plus.
Mauvais développement d'intelligence artificielle est différent de mauvaise utilisation. Un mauvais développement d'intelligence artificielle, ça sera un outil qui sera développé avec peu de rigueur scientifique, sans validation clinique. Et donc, on ne saura pas à quel point il est performant sur les patients qu'il traite, en tout cas dans lesquels il est inclus comme faisant partie intégrante du traitement du patient. Par contre, une mauvaise utilisation peut même survenir avec un outil qui est parfait. Et donc, si l'outil est parfait, mais que la mise en œuvre de l'outil au sein de l'hôpital n'est pas bonne, ou au sein d'un cabinet de médecine générale n'est pas bonne, eh bien, on peut se retrouver avec des résultats de pauvre qualité, parce qu'en fait, on n'aura pas mis en place des stratégies qui permettent d'utiliser correctement l'outil. Par exemple, imaginez un outil qui détecte si un patient est à risque de faire un événement, un accident pendant l'hospitalisation. Mais imaginez que cet outil soit mis à disposition, qu'il marche, qu'il envoie des notifications, mais que personne ne tient compte des notifications qui sont envoyées.
Pour le cofondateur de Bingley, Tom Van de Put, les algorithmes génératifs qui utilisent un grand modèle de langage appelé LLM, comme ChatGPT, peuvent être un danger pour la santé des patients s'ils sont utilisés dans le domaine médical. Il souligne que le questionnaire intelligent de Bingley utilise un autre système algorithmique.
ChatGPT, par exemple, ou des LLM, ce sont des boîtes noires. Donc, il y a des choses qui se passent dans la boîte, mais on ne sait pas pourquoi ou comment, etc. Alors que chez nous, c'est une boîte blanche. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours contrôler et identifier pourquoi l'algorithme a posé telle question, pourquoi l'algorithme propose tel diagnostic ou telle action ou telle suggestion. Donc, on peut toujours le contrôler et aussi, c'est important, le valider.
Selon le professeur Giovanni Briganti, les solutions pour éviter une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle sont à la fois de fournir une formation pour les travailleurs de la santé, tout en mettant en place des règles pour encadrer les logiciels. Car, il en est sûr, dans l'avenir, le personnel médical et l'IA travailleront de concert.
L'IA ne remplacera pas le médecin. L'IA, c'est un outil au service du médecin qui doit savoir quand et comment l'approprier de la bonne façon. Je pense qu'elle peut faire énormément de bonnes choses dans l'humanité. Elle peut améliorer la qualité des soins que l'on offre aux patients. Elle peut améliorer la performance des médecins, mais aussi rendre la qualité de leur travail et la qualité de leur vie au travail meilleure. Elle peut soutenir les organisations de soins. Elle peut améliorer la recherche et le développement. Et elle peut soutenir la santé publique. Moi, je suis convaincu de son outil. Il suffit maintenant de l'utiliser à bon escient et dans les bons cas.
Pour Giovanni Briganti, tout comme pour Jérôme Le Chien, le principal défi est maintenant d'obtenir l'adhésion du personnel médical pour laisser l'IA faire sa place dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous. À lundi.